France Culture.
L'heure du journal de la rédaction. Bonsoir, Lou Momège.
Bonsoir, Arnaud. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, y aura-t-il une trêve de 3 jours la semaine prochaine entre l'Ukraine et la Russie? C'est ce que propose Vladimir Poutine à l'occasion des commémorations de la victoire russe sur les nazis. Mais Volodymyr Zelensky, lui, reste sur ses gardes face à cette stratégie. Après un scrutin annulé en novembre, la Roumanie s'apprête de nouveau à voter pour son futur président demain. Des élections perturbées par l'ingérence russe qui, sur les réseaux, pousse les candidats d'extrême droite. Et puis nous reviendrons sur cette annonce d'Emmanuel Macron, une convention citoyenne pour repenser le temps d'école des enfants. Question insensée selon les syndicats si on ne repense pas en même temps le rythme de travail des parents. C'est une nouvelle source de discorde entre Moscou et Kiev. Vladimir Poutine propose un cessez-le-feu de 72 heures autour du 9 mai, jour qui célébrera les 80 ans de la victoire russe contre l'Allemagne nazie. Une trêve bien trop courte pour Volodymyr Zelensky qui rejette cette proposition. La réaction déplaît au Kremlin qui accuse le président ukrainien de menaces directes. Explication avec Isabelle Labéry.
Une fois de plus, le Kremlin propose un marché de dupes dont il a lui-même fixé les règles. Ce cessez-le-feu, explique Moscou, est un test qui nous dira si Kiev est bien prêt à la paix. Réponse du président ukrainien hier soir devant quelques journalistes. Tout cela n'est pas sérieux, ce n'est pas en 72 heures que nous allons établir un plan pour la fin de la guerre. Nous avons besoin d'une trêve totale et incompressible de 30 jours. Sur ce point, Volodymyr Zelensky assure d'ailleurs avoir le soutien de Donald Trump depuis leur échange en marge des funérailles du pape François. À Moscou, Vladimir Poutine, lui, cherche surtout à empêcher les drones ukrainiens de venir lui gâcher la fête, alors qu'une vingtaine de dirigeants sont invités aux cérémonies du jour de la victoire. Mais Kiev ne pourra pas garantir leur sécurité, dit Volodymyr Zelensky, pressé par le Kremlin de donner une réponse officielle à la proposition de trêve. Pendant que la joute verbale se poursuit, sur le terrain, rien ne change. Des drones envoyés cette nuit par la Russie sur la ville de Kharkiv ont blessé une cinquantaine de civils.
Les précisions d'Isabelle Labéry depuis l'est de l'Ukraine pour Radio France. 19 millions de Roumains se rendent aux urnes demain. Ils ont déjà voté en novembre pour le premier tour de la présidentielle, mais cette élection a dû être annulée et c'est à cause de l'influence des réseaux sociaux. La Roumanie soupçonne une ingérence russe via notamment l'application TikTok qui aurait favorisé le candidat d'extrême droite, Calin Georgescu, et il est désormais interdit d'élection. Mais à la veille du nouveau scrutin, c'est Georges Simion, un autre candidat d'extrême droite qui est en tête des sondages, toujours grâce aux réseaux sociaux, Virginie Peronon.
Oui, car en Roumanie, près d'un habitant sur deux est sur TikTok. C'est le cas de Roberto, 22 ans. C'était la première fois en novembre dernier que le jeune homme votait pour une présidentielle et il estime avec le recul être complètement tombé dans le panneau.
Sans trop m'intéresser au candidat, j'ai choisi celui que j'ai vu sur TikTok, c'est-à-dire Georgescu. Comme des moutons, moi j'ai choisi celui-là, un autre aussi, et on s'est tous retrouvés à voter pour lui à cause de cette campagne agressive.
Mais cette campagne agressive se poursuit avec cette fois un autre candidat d'extrême droite, George Simion, arrivé en 4e position en novembre dernier sur le marché de Bucarest, à 2 pas du siège du gouvernement. Iulian ne décolère pas.
Je n'ai plus confiance en personne. Ils nous ont humiliés.
Il avait voté pour Calin Georgescu avant l'annulation de l'élection.
Le peuple roumain n'a plus la parole. Même si on vote, ça ne sert à rien. J'ai voté. Vous avez vu le résultat? C'est une mafia, c'est clair.
Demain, Iulian votera peut-être pour l'ultra-nationaliste George Simion, qui caracole en tête des sondages à 30% environ, grâce à ses 1 300 000 abonnés sur TikTok.
Virginie Pierronon avec Paul Kosygian et Romain Lucians. De l'autre côté du globe, l'Australie vient d'élire son nouveau Premier ministre. Il s'agit du travailliste Anthony Albanese. Il a remporté les élections face au conservateur du Parti libéral Peter Dutton. Avec 68% des voix en sa faveur, le Parti travailliste devrait remporter 81 des 150 sièges de la Chambre des représentants et ainsi renforcer sa majorité au Parlement australien. Au Soudan, les tensions dans la lutte pour le pouvoir s'intensifient. Les paramilitaires ont frappé l'aéroport de Kassala à la frontière avec l'Érythrée. Tenue par l'armée, la ville de Kassala abrite 318 000 réfugiés selon l'Organisation internationale pour les migrants. Plus tôt dans la journée, un hôpital de Médecins sans frontières a aussi été bombardé. Tous les médicaments sont perdus, s'inquiète l'organisation humanitaire. Depuis 3 ans, le Soudan se déchire entre l'armée et les forces paramilitaires responsables d'un coup d'État. Un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et de déplacés, considéré comme la pire catastrophe humanitaire au monde, selon l'ONU. Les autorités syriennes ont arrêté le chef du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, commandement général, un groupe historiquement proche du président syrien déchu, Bachar al-Assad. Il y a quelques semaines déjà, 2 responsables du djihad islamique, autre groupe palestinien, avaient été arrêtés en Syrie. Ces 2 organisations sont considérées comme terroristes par les États-Unis. Or, Washington refuse de lever les sanctions imposées à la Syrie tant que le pays ne lutte pas activement contre ces types de mouvements. Et alors que la loi sur la fin de vie est toujours débattue chez nous en France, en Belgique, eh bien l'euthanasie est légale depuis 2002. Le plus ancien détenu du pays, Freddy Orion, vient d'ailleurs de demander à mettre fin à ses jours. Condamné pour le meurtre de 6 personnes, il se dit victime de souffrances psychologiques insupportables. Une question demeure, Lakshmi Lotha, une telle demande d'euthanasie peut-elle être acceptée?
Cela fait 45 ans que Freddy Orion est emprisonné. Depuis les années 90, il introduit une demande de libération conditionnelle tous les ans, sans succès. En 2023, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'État belge devait effectivement lui offrir une perspective de réinsertion. Aujourd'hui, désespéré par tous ses refus, à 77 ans, Freddy Orion demande l'euthanasie pour cause de souffrances psychologiques insupportables. Mais la coprésidente de la commission de contrôle de l'euthanasie, Jacqueline Hermans, rappelle que la loi est très précise.
Il faut insister sur cette condition. Les souffrances doivent être causées par un problème médical. Sauf si l'on m'apporte la preuve que ce patient, ou plutôt que ce détenu, souffre d'une infection grave et incurable, il ne s'agit pas d'un cas qui peut entrer dans le cadre de la loi.
Souffrir parce qu'on est prisonnier ne constitue donc pas un argument valable. Le détenu va tout de même introduire sa demande. La Cour d'appel d'Anvers a confirmé en 2023 l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme. Freddy Orion devait être transféré dans une institution en vue d'une réinsertion, mais l'État belge s'est pourvu en cassation.
Il était soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur des élèves et il a été retrouvé mort aujourd'hui. Un ancien professeur du lycée Pritané dans la Sarthe est décédé. La piste du suicide est privilégiée, mais une enquête est en cours. Après les plaintes de plusieurs anciens élèves, l'enseignant retraité avait été interpellé il y a 4 jours. Il était mis en cause pour des violences sexuelles présumées entre 1990 et 2009. Peut-on réellement remodeler les horaires à l'école dans le rythme de la société actuelle? Emmanuel Macron a annoncé hier une nouvelle convention citoyenne pour refaçonner les vacances et les plannings scolaires. Mais cette annonce est loin de faire l'unanimité parmi les syndicats. Les rythmes scolaires ont déjà été révisés en 2013, puis totalement revus 5 ans plus tard. Car pour avoir des rythmes plus adaptés à celui des enfants, il faudrait déjà repenser le rythme de travail des parents, selon Guylaine David. Elle est porte-parole du syndicat des écoles SNUIP-FSU.
J'entends des chronobiologistes ou des psychologues qui disent il faut que les enfants commencent plus tard le matin l'école. Vous savez, les parents qui travaillent et qui travaillent tôt le matin ou qui travaillent tard le soir. Je pense notamment aussi aux femmes qui élèvent leurs enfants seules et qui n'ont pas de moyens de garde de leurs enfants. Les enfants, on les accueille à 7h30 en périscolaire à la garderie le matin et les enfants, ils y restent jusqu'à 18h le soir. Donc, ils ont une amplitude horaire qui n'est pas facile, qui n'est pas simple. Changer le rythme de l'école au sein même de ces journées-là n'empêchera pas le fait qu'ils seront dans un système collectif tout au long de cette journée et qu'ils seront soumis aussi à la pression du rythme de lever le matin et de rentrer tard le soir chez eux. Tant qu'on ne pense pas le rythme de la société, on ne peut pas repenser le rythme de l'enfant. Et c'est pareil pour les vacances scolaires. Le président Macron fait une fixation sur les vacances d'été qu'on aurait de façon trop importante. Or, on se retrouve quand même plutôt dans la fourchette basse des pays de l'OCDE. On a 8 semaines de vacances quand d'autres pays en ont 10. Je pense à la Finlande notamment, ou encore l'Irlande, où ils sont à 12 semaines. Donc, on n'est pas dans les pays qui ont le plus de vacances l'été. Mais ces vacances-là, elles s'organisent autour de la famille, autour du travail et autour du monde économique. Elles ne s'organisent pas à l'aune du rythme de l'enfant. C'est un leurre de se dire qu'on va pouvoir revoir ces questions des vacances scolaires.
Propos recueillis par Mercia Nézic. Les syndicats des professeurs des écoles estiment aussi qu'Emmanuel Macron, avec cette convention citoyenne, passe à côté des véritables enjeux de l'éducation nationale, à commencer par le manque d'enseignants. La météo, demain, ce sera un temps orageux de la Bourgogne jusqu'aux Pyrénées. Les perturbations gagneront la Nouvelle-Aquitaine dans l'après-midi. Côté température, il fera 12 à Lille et jusqu'à 20 degrés à Lyon et Marseille dans la matinée. L'après-midi, 15 à Metz, 18 à Vichy et 20 degrés à Bordeaux. Merci à Alison Vicrobeck pour la réalisation de ce journal.